Bien. Je vous ai laissé la dernière fois dans un suspense absolument intolérable, puisque le tsar a déclaré que l'Empire ottoman était l'homme malade, que les troupes russes sont entrées dans les Balkans ottomans, elles sont sur le Danube, ce qui amène une intervention militaire franco-britannique. Selon une expression célèbre qui a plusieurs auteurs comme toute expression célèbre, la question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Et en ce sens-là, évidemment, la guerre qui deviendra dans l'histoire la guerre de Crimée est bien une question d'Occident, puisqu'elle oppose prioritairement deux puissances, la France et la Grande-Bretagne, à une troisième, la Russie, même si évidemment les Ottomans participent au combat. Et ils sont l'enjeu de cette guerre. Elle est aussi une question d'Occident, selon l'expression de l'historien britannique Arnold Toynbee, puisqu'elle contribue à accélérer, aussi bien pour des raisons internes qu'externes, l'occidentalisation, modernisation des structure sociale de l'Empire ottoman, avec pour enjeu premier la question de l'émancipation des non-musulmans. Alors, rétrospectivement, pour nous, la guerre de Crimée est d'abord quelque chose de fascinant parce que c'est la première guerre moderne. C'est la première dans laquelle nous avons des photos. Et vous savez, là, ce sont évidemment des photos de pause. Mais là, vous avez soldats ottomans sur le front du Danube en 1854, et ce sont des photographies qui sont d'une extrême qualité. Et là, vous avez des zouaves français en 1855. Ce sont des photos vraiment totalement de très grande qualité. Et la photographie n'a pas 15 ans d'âge, hein. On sent là la modernité qui se produit sur nous. Modernité qui est partout. La guerre de Crimée, c'est la première fois que des Occidentaux envoient un corps expéditionnaire sur des bateaux à vapeur. D'où le grand problème logistique pour les Français et Britanniques, ce sont les dépôts de charbon. Pour assurer la logistique du corps expéditionnaire en Crimée. Je vous avais dit il y a quelques séances que les armements au début du XIXe siècle entre les pays orientaux et les pays occidentaux étaient identiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les armements occidentaux, le fusil à canon rayé, les nouveaux canons impliquent des industries de pointe qui sont maintenant hors de portée des pays orientaux, contrairement aux années 1820-1830. Nous avons l'occasion d'y revenir. La guerre de Crimée est la première guerre suivie par télégraphe. Nous sommes là dans une modernité, dans un univers, pour être simple, si ça dit encore quelque chose aux gens, c'est l'univers de Jules Verne. Cette modernité technologique triomphante de la seconde moitié du XIXe siècle, bien qu'à ma connaissance, Jules Verne n'ait pas parlé de la guerre de Crimée. Mais je peux me tromper. Il a fait d'ailleurs un délicieux roman turc, hein, Kéraban le Têtu, que je vous conseille par ailleurs, mais c'est dans les œuvres tardives de Jules Verne. Cette guerre nous rappelle que si nous abandonnons un point de vue européocentriste, du fait qu'il n'y aurait pas eu de guerre majeure entre 1815 et 1914, cette guerre a quand même fait 1 million de morts. Entre 400 et 600 000 soldats russes. 100 000 morts dans l'armée française, 20 000 dans l'armée britannique, plus les Ottomans, plus les pertes civiles qui ne sont pas décomptées. Donc on est de l'ordre du million de morts pour une guerre qui a été pourtant définie comme une guerre sans haine. Pour être simple, pour comparer quelque chose qui est dans la même période, c'est le double des morts de la guerre de sécession aux États-Unis. Cela dit, il y a encore des signes d'archaïsme. La grande majorité des morts de la guerre des Crimée sont des morts de maladie, de choléra en particulier. Rappelez-vous un fait qu'on a tendance à oublier. On ne commence à mourir majoritairement au feu qu'à partir de la Première Guerre mondiale. Jusque-là, les morts de guerre sont d'abord par maladie avant d'être des morts au feu. Alors pourquoi la guerre mondiale ? Première Guerre mondiale, c'est grâce à Pasteur, puisque pour la première fois, la Première Guerre mondiale, en tout cas sur le front de l'Ouest, opposera des armées de soldats vaccinés. Cela dit, les coutumes et courtoisies de la guerre ont été conservées durant cette guerre de Crimée, comme dans la suivante, d'ailleurs, la guerre d'Italie de 1858, contrairement à celle de 1870, qui, elle, verra émerger la haine dans les conflits européens. Alors, percée technologique majeure, c'est très simple. En 1830, il fallait 2 à 3 semaines pour que des nouvelles arrivent de Constantinople dans les principales capitales européennes. La combinaison du bateau à vapeur et du télégraphe a réduit cela à 5 jours entre Sébastopol et Londres en 1853, 2 jours en 1854, quelques heures en avril 1855. Autrement dit, la guerre de Crimée instaure ce qu'on appellera la dictature du temps réel. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus ces lignes isochrones qui séparaient les décisionnaires. Paris et Londres suivent heure par heure, en direct, l'évolution du front. Et ceci est un bouleversement des mœurs militaires et des mœurs diplomatiques. Puisque les gouvernements réagissent à la minute au lieu d'attendre 15 jours comme c'était le cas quelques décennies auparavant. Et le résultat est évidemment une perte de liberté d'interprétation des instructions et aussi un poids croissant des opinions publiques dans les prises de décisions. Autre signe de la modernité, c'est l'arrivée des correspondants de guerre. C'est la première fois que l'on a des journalistes qui suivent directement les opérations. Et c'est les dépêches furibardes des correspondants de guerre britanniques sur l'état catastrophique des services de santé de l'armée britannique qui conduira à l'envoi d'infirmières conduites par la célèbre Florence Nightingale, dont vous avez ici le fameux tableau de Florence Nightingale soignant et recevant les blessés de l'armée britannique. Et en cela, la guerre de Crimée est l'annonce de l'émergence de l'humanitaire qui va conduire après la guerre d'Italie de 1858, à la constitution de la Croix-Rouge. Modernité, mais en même temps, évidemment, aussi déficit de modernité. L'armée russe est composée à 99,75% d'analphabètes. La différence est évidemment colossale par rapport aux armées occidentales qui sont là. Et en même temps, c'est le piège militaire. Français et Britanniques peuvent s'acharner à prendre Constantinople, Sébastopol, et ça va durer un an et demi, les combats autour de Sébastopol. Les Russes ne peuvent pas apporter beaucoup de soutien à Sébastopol parce qu'ils n'ont pas la logistique. Ils ont l'Ukraine à traverser, ils n'ont pas de chemin de fer, ils n'ont pas de route, etc. Mais inversement, une fois que Sébastopol sera pris, bah, les Français et les Britanniques se demanderont quoi faire. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas remonter au centre de l'Ukraine pour la même raison qui est l'absence des réseaux de communication dans l'Empire russe. Autre signe, alors est-ce moderne ou pas moderne, on pourra en discuter avec les derniers événements, les passions religieuses. La Russie de Nicolas Ier, il voit une guerre de libération des orthodoxes et des slaves de l'Empire ottoman et a compté sur un soulèvement généralisé des chrétiens des Balkans, ce qui a beaucoup inquiété l'Empire d'Autriche, dont la composition est multinationale. Les catholiques français ont soutenu une guerre contre les schismatiques orthodoxes, l'erreur de Photius condamnée par l'archevêque de Paris. Les protestants britanniques ont trouvé que ces mêmes orthodoxes étaient encore plus obscurantistes que les musulmans, puisque au moins les musulmans toléraient le prosélytisme protestant chez les chrétiens de l'Empire ottoman, ce qui était interdit dans l'Empire russe. C'est une guerre, évidemment, à chaque fois qu'un pays musulman est en guerre, surtout si c'est un califat comme l'Empire ottoman, on proclame le djihad. C'est un djihad qui s'appuie sur des armées franco-britanniques, c'est-à-dire en gros catholico-protestantes, ce qui n'est pas trop gênant. Les Ottomans espèrent dans un soulèvement des populations musulmanes de l'Empire russe, en particulier dans le Caucase. Et inversement, les Russes espèrent un soulèvement des populations chrétiennes des Balkans. Et là, on a évidemment ce qu'on se reproduira en plus grand durant la Première Guerre mondiale. Ceux qui paieront le plus gros prix dans tout ça, ce sont les Tatars de Crimée, puisqu'évidemment, ils ont accueilli en libérateurs les armées franco-anglo-ottomanes, mais qu'elles ne resteront pas sur le terrain. Entre 1856 et 1863, deux tiers des Tatars de Crimée ont dû émigrer vers l'Empire ottoman, soit 200 000 personnes. Donc une conséquence de cette guerre sera la russification de la Crimée. Et vous entendez là, évidemment, des résonances sur la situation d'aujourd'hui. Globalement, on estime que dans les 10 ans qui ont suivi la guerre de Crimée, 1 200 000 musulmans ont fui l'Empire russe du Caucase ou de la Russie centrale, ce qui évidemment a modifié les rapports numériques entre chrétiens et musulmans à l'intérieur de l'Empire ottoman. Néanmoins, la guerre a aussi précipité l'occidentalisation de l'Empire, du fait même de la présence de dizaines, voire de centaines de milliers de soldats occidentaux sur le sol ottoman, à Constantinople étant la base arrière du corps expéditionnaire de Crimée. Là, je ne vais pas montrer cette photo, mais tout à fait significative, c'est le port de Baklava, donc le port du corps expéditionnaire à Baklava, et vous voyez les bateaux qui sont des navires mixtes. On est dans la situation de transition. Ils ont des machines, des vapeurs, mais ils ont encore de la voile. c'est de la navigation mixte. On est dans la phase de transition du basculement vers le tout vapeur de la seconde moitié du 19e siècle. La dépendance de l'Empire ottoman s'est aussi accrue pour financer l'effort de guerre. L'Empire ottoman a été obligé d'emprunter massivement en France et en Grande-Bretagne, ce qui va entraîner une fuite en avant absolument catastrophique dans les années qui suivent, puisque pour rembourser les prêts précédents, on emprunte et donc on augmente l'endettement. Et comme la signature ottomane n'est pas considérée comme sans risque, évidemment, le taux d'intérêt est particulièrement élevé. À certains moments du conflit, les franco-britanniques ont envisagé la remise en cause d'un siècle de conquête russe avec une libération de la Pologne, une restauration de l'indépendance des Tatars de Crimée, mais le coût de la guerre a limité les ambitions. Finalement, on s'est contenté de revenir aux premiers enjeux, la préservation de la route des ânes et le sort des chrétiens ottomans. Pour la France et la Grande-Bretagne, il faut obtenir une vraie émancipation des chrétiens tout en conservant les moyens d'influence que les communautés chrétiennes représentent pour les puissances. En 1856, les ambassadeurs français et britanniques à Constantinople négocient longuement avec les responsables ottomans l'édit d'émancipation qui, de toute façon, s'inscrivait dans la logique des Tanzimats depuis 1839. Donc c'est le fameux Hat Humayun du 18 février 1856, qui est une date centrale dans l'histoire de l'islam, puisque c'est l'édit d'émancipation des non-musulmans qui sert de référence pour toute autre législation concernant les non-musulmans dans les pays héritiers de l'Empire ottoman, voire au-delà. Alors, contrairement au principe retenu pour l'émancipation des juifs, les seuls non-chrétiens en Europe, depuis la Révolution française, et qui d'ailleurs, en 1856, totalement incomplète. En 1856, un juif ne peut pas encore être élu député à la Chambre des communes en Grande-Bretagne, puisqu'il doit prêter un serment chrétien. Et l'émancipation des juifs n'est pas encore terminée en Allemagne et en Autriche. Elle aura lieu dans les années 1860, lors de l'unification italienne et de l'unification allemande. Donc, le principe de la Révolution française était tout accordé en tant qu'individu, tout refusé en tant que nation, nation ayant le sens de communauté. Ici, on adopte le principe de contraire, tout accordé en tant que communauté et non pas en tant qu'individu. Donc, le Hat commence, comme toujours dans ce genre de littérature, par un renvoi au passé musulman pour servir de légitimation. Tous les privilèges et immunités spirituelles accordés ab antiquo de la part de mes ancêtres et à des dates postérieures à toutes les communautés chrétiennes ou à d'autres rites non musulmans établis dans mon empire, sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus. Mais ensuite, on suit l'esprit du temps. Chaque communauté chrétienne ou d'autres rites non musulmans sera tenue dans un délai fixé et avec le concours d'une commission formée ad hoc dans son sein de procéder avec ma haute approbation et sous la surveillance de ma sublime porte à l'examen de ses immunités et privilèges actuels et d'y discuter et soumettre à ma sublime porte à l'examen les réformes exigées par le progrès des Lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens par le sultan Mehmed II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Là, ce renvoie à Fatih, Mehmed II Fatih, le conquérant de Constantinople, renvoie au mythe d'origine des communautés, puisque historiquement, On sait qu'aujourd'hui que c'est totalement faux, mais ça n'a aucune importance. Les communautés non musulmanes se revendiquent d'un acte de fondation par le conquérant de Constantinople. Le principe de la nomination à vie des patriarches après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur sera exactement appliqué conformément à la teneur de leur firman d'investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonction d'après une formule concertée en commun entre ma sublime porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Donc, les grands religieux des communautés sont des fonctionnaires assermentés de l'Empire ottoman, qui est un califat. Les redevances ecclésiastiques de quelque forme et nature qu'elles soient seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs de communauté et par l'allocation des traitements et de salaires équitablement proportionnés à l'importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé. Donc d'un côté, vous avez l'infrastructure religieuse des communautés, des religieux, et de l'autre, vous avez la société civile, puisque à côté des religieux, la communauté sera gérée par un conseil élu, qu'on appelait le Majlis Milli, le conseil de la nation, de la communauté, qui gérera les affaires temporelles de la communauté, ses écoles, ses tribunaux, ses hôpitaux, ses œuvres collectives, de façon générale. Donc, elle sera placée sous la sauvegarde d'une assemblée choisie dans le sein de chacune des dites communautés parmi les membres des clergés et des laïcs. On assure la pleine liberté de culte, d'édification d'édifices religieux, comme toujours, les limitations étant fondées sur des principes d'ordre public. Toutes les discriminations sont abolies. Ça, c'est intéressant pour la situation contemporaine. Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon empire inférieure à une autre classe, à raison du culte de la langue, sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l'usage entre particuliers ou de la part des autorités de toute qualification injurieuse ou blessante. Donc ça, c'est l'édit de 1856. La question difficile était la question de la conversion. Non pas qu'évidemment les musulmans n'étaient pas hostiles à la conversion des chrétiens ou des juifs à l'islam, mais c'était la conversion dans le sens inverse. Évidemment, les ambassadeurs avaient essayé d'obtenir le droit de conversion dans l'autre sens. Et évidemment, l'administration ottomane avait résisté jusqu'au bout, mais Dieu merci, les diplomates sont totalement ingénieux, d'où la formule alambiquée qui est la suivante. Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes états, aucun sujet de mon empire ne sera gêné dans l'exercice de la religion qu'il professe et ne sera d'aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion. Donc la formule est artistiquement bien faite, puisqu'elle veut dire, en fait, que si un musulman s'est converti au christianisme, il ne sera pas inquiété. Mais c'est nulle part indiqué. Dans le texte, on reprend simplement une formule islamique traditionnelle que personne ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. Donc c'est tout à fait subtil comme formulation. De même chose, on annonce une égalité fiscale, une égalité des charges, y compris militaires, entre musulmans et non-musulmans. Mais en pratique, on impose tout de suite un droit de remplacement pour les non-musulmans, ce qu'on appellera le bedel, c'est-à-dire que les non-musulmans paieront une taxe de remplacement, mais ne seront pas contraints à la conscription. Ce qui, finalement, sur le plan matériel, était plutôt un avantage qu'une discrimination, vu l'ampleur des guerres sanglantes dans lesquelles l'Empire ottoman était engagé et qui ne frappait finalement les pertes humaines ne touchant que la communauté musulmane et non pas les non-musulmans. Ainsi, la communauté confessionnelle, ce qu'on va appeler le millet, est établie comme structure juridique sous forme de délégation de l'autorité de l'État. Le chef de la communauté, un patriarche pour les chrétiens, un grand rabbin pour les juifs, doit être ainsi investi par le sultan pour exercer ses fonctions. Les membres du Majlis Millî sont nommés en choisissant les notables les plus importants, puis ensuite, dans une seconde phase, on procédera à des élections dans la communauté, ou en tout cas pour ce qui concerne Istanbul. Donc on a eu, par exemple, des élections pour le Majlis Millî de la communauté arménienne à Istanbul, et il y a des chercheurs qui ont fait des études passionnantes sur les votes aux élections du Majlis Millî arménien d'Istanbul. Mais au fin fond de l'Anatolie, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas penser à des élections. Outre ses propriétés matérielles, qui sont constituées de biens ecclésiastiques, d'hôpitaux, d'écoles et d'institutions philanthropiques, la communauté dispose du statut personnel de ses membres, c'est-à-dire essentiellement du droit familial et de succession qui l'a conduit à avoir ses propres tribunaux. Et ça, c'est un point fondamental, c'est le principe de la personnalité des lois qui avait été aboli en Occident, sauf dans l'Empire colonial, et qui est appliqué et généralisé dans l'Empire ottoman. Alors, évidemment, avant l'édit 1856, il y avait déjà une personnalité des lois dans l'Empire ottoman. Mais en fait, si un plaignant considérait qu'il risquait d'être lésé dans ses intérêts par un tribunal de sa propre communauté, il s'adressait au tribunal musulman, qui était considéré comme supérieur d'autorité au tribunal chrétien, aux juifs. C'est pour ça que les archives de Kadi de l'Empire ottoman sont remplies de dossiers de chrétiens et de juifs qui court-circuitent, en quelque sorte, les tribunaux de leur communauté, parce qu'ils considèrent que leur intérêt sera mieux jugé par un tribunal musulman. Et là, évidemment, l'édit 1856 supprime cette liberté qui était accordée aux non-musulmans de s'adresser aux tribunaux musulmans. Donc, il faut le prendre dans l'autre sens par rapport à ce qu'on voit habituellement. L'emploi au... Donc, l'idée centrale de l'édit 1856 est de constituer des ensembles à la forte personnalité culturelle, mais dénués de caractère territorial. C'est ça l'essence de l'édit de 1856. L'accès aux emplois publics est garanti à tous en fonction du mérite personnel, mais en pratique, on va suivre plus ou moins des quotas sur la base de la répartition démographique supposée au niveau local. Donc, dans les conseils locaux, dans les municipalités, il y aura à chaque fois, en fonction de la répartition supposée des communautés, un quota de non-musulmans, qui peut être dans certains cas majoritaire, si on considère que les chrétiens ou les juifs sont majoritaires dans le secteur. Néanmoins, les chrétiens sont surreprésentés dans les nouvelles institutions du fait de leurs compétences, dues à leur avance en matière d'éducation, mais en revanche, les postes de haute responsabilité restent le monopole des musulmans parce que on considère qu'il y a un problème de loyauté envers l'État. Donc les grands décisionnaires doivent rester musulmans. Et puis, cette institution centrale de l'Empire qu'est l'armée est totalement musulmane. Très rapidement, donc, la taxe de remplacement pour le service militaire s'est imposée. Et comme je l'ai dit, c'était considéré plutôt comme un privilège. Alors, je passe, je ne vous ai pas parlé des longues, enfin, des combats de la guerre de Crimée, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que Sébastopol est pris, que tous les gens sont fatigués, et que Nicolas Ier est mort. Pour mémoire, M. Poutine a fait installer le portrait de Nicolas Ier dans son cabinet. Donc, après la mort de Nicolas Ier et l'arrivée d'Alexandre II, au pouvoir, on peut négocier, ce qui conduira au traité de Paris, qui est le premier traité négocié dans le bâtiment tout à fait nouveau qu'on vient de construire pour le ministère des Affaires étrangères à Paris, au Quai d'Orsay. Et donc, il y a ce célèbre tableau officiel des négociateurs du Congrès et du traité de Paris, qui est le premier grand événement du Quai d'Orsay. Et ce tableau se trouve toujours, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le voir, dans les salons officiels du Quai d'Orsay. Donc, le traité du 30 mars 1856 tire les conséquences diplomatiques du conflit. Et on va noter, si vous regardez exactement l'article 9 du traité, le fait suivant. Sa Majesté impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes le dit firman spontanément émané de sa volonté souveraine. Bon, le spontanément est peut-être un peu en trop, mais vous noterez surtout que le traité de Paris ne parle que des chrétiens et pas des juifs, alors que l'édit, lui, traite des chrétiens et des juifs. Parce que tout simplement, ça aurait été chagriner les Russes que de voir que les Ottomans avaient émancipé leurs juifs, ce qui n'était pas le cas des juifs de l'Empire russe. Et donc, de ce fait, l'édit d'émancipation est en avance sur l'Europe centrale et orientale de l'époque, en ce qui concerne les populations juives en particulier. Donc ensuite, les puissances contractantes s'engagent à ne pas s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté impériale le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire. Ça, c'est une formule élégante, mais personne n'y croit vraiment. En revanche, on admet officiellement pour la première fois l'Empire ottoman, je cite dans l'article 7, a participé aux avantages du droit public et du concert européen. Leur Majesté s'engage chacune de son côté, respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considère en conséquence tout acte de nature et porté atteinte comme une question d'intérêt général. Donc, officiellement, l'Empire ottoman se retrouve accepté sur un statut d'égalité avec les puissances européennes. Officiellement, mais personne n'est dupe, parce que là encore, les capitulations et les protections continuent de s'exercer à l'intérieur de l'Empire. La mer Noire se trouve neutralisée, ce qui interdit à la Russie d'y avoir une marine militaire. Un grand événement dans l'histoire, personne ne l'avait noté, c'est en relisant le traité de Paris, je m'en suis aperçu l'autre jour, grâce à vous, je ne l'avais pas noté jusque-là. Une déclaration ajoutée au traité de Paris annonce l'engagement des pays signataires à ne plus délivrer de lettres de marque, ce qui signifie l'abolition de la course et des corsaires. C'est le traité de Paris qui met fin à l'institution pluriséculaire des corsaires, qui sont des entrepreneurs privés qui faisaient des actes militaires avec des lettres de marque, c'est-à-dire de course, d'un gouvernement. Et donc, les corsaires sont abolis par le traité de Paris. C'est intéressant, ces traités, parce qu'on vous enseigne toujours l'aspect central sans voir les traités, les clauses annexes. Je vous rappelle, le traité de Vienne de 1815 met fin à la traite des esclaves dans le monde. Traité de Paris, met fin à la course. Et autre point important du traité de Paris, même s'il ne sera jamais respecté malheureusement, est l'engagement des puissances en cas de conflit à faire appel aux bons offices d'une tierce puissance pour tenter de donner une issue pacifique à leur querelle avant de recourir aux armes. Donc ce qu'énonce le traité de Paris, c'est qu'en cas de conflit entre puissances, la mise en place d'une instance d'arbitrage avant le recours aux armes. Et là, évidemment, c'est un immense pas en avant dans le droit international, même si, encore une fois, il ne sera pas respecté. Mais la procédure d'arbitrage est fondée juridiquement par le traité de Paris. Enfin, en tout cas, pas d'arbitrage, de consultation préalable à un conflit est une invention du traité de Paris, et en particulier en ce qui concerne le sort de l'Empire ottoman. Donc on parle de bons offices et de médiation pour la prévention des conflits armés, et on énonce pour la première fois un principe de règlement pacifique des différends. Il reste à savoir si cette affirmation de l'intégrité de l'Empire ottoman garantie par les puissances constitue ou non une fiction diplomatique. En théorie, en cas de différend, donc, les puissances doivent offrir leur médiation pour empêcher le recours à la guerre. Mais la question qui n'est pas posée, mais qui est à l'esprit de tout le monde, qu'en sera-t-il en cas de massacre de nature confessionnelle ? Mais avant d'aborder cette question, je vais faire une excursion sur un domaine connexe que je n'ai pas abordé jusqu'ici, strictement pour me faire plaisir. Donc je vais vous faire quelque chose qui est un peu oblique par rapport au sujet principal et que surtout ceux qui, les moins de 25 ans, ne peuvent pas imaginer. Donc je vais vous faire une petite étude, un peu longue quand même, sur deux auteurs bien connus qui ont traité dans les années 1850 de la question d'Orient, un certain Karl Marx et Frédéric Engels. Et donc, nous allons aborder le marxisme et la question d'Orient. Enfin, le marxisme n'existait pas, évidemment, à l'époque, mais ce qui allait constituer le marxisme. Et c'est assez surprenant. D'abord, un portrait du grand Karl dans cette période. Il n'a pas encore la grande barbe blanche qu'on verra ensuite sur les panneaux de Tiananmen à côté de Mao Tse-tung. Donc c'est Karl Marx dans les années 1850 probablement. Alors on sait combien le manifeste du Parti communiste de 1847 constitue une sorte d'apologie de la bourgeoisie conquérante, en particulier dans sa recherche de débouchés toujours nouveaux, qui l'a conduit à conquérir le monde en créant le marché mondial. En brisant les cadres nationaux, la bourgeoisie modèle le monde à son image, elle subordonne la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux nations civilisées, les pays agricoles aux pays industriels, l'Orient à l'Occident. Ça, c'est le manifeste du Parti communiste. Pour ceux qui ont dépassé la première ligne, un spectre entre l'Europe, etc. Le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie européenne est particulièrement marqué par la question de ce qui va devenir dans les écritures marxistes le mode de développement asiatique. Ah, ça, c'est toujours le problème avec Karl Marx. Il faut bien voir, là, il est à Londres, on aura l'occasion d'y revenir, il passe ses journées à la librairie nationale, et donc il lit des tas de choses sur l'économie du monde, et donc il griffonne quelques petites choses sur l'Asie, et évidemment, il le refourgue comme article, ce qui donne un article de juin 1853, La domination britannique aux Indes, qui sera catastrophique pour toute l'histoire des sciences sociales dans les pays marxistes ensuite. Depuis des temps immémoriaux, l'Asie n'a connu que trois administrations gouvernementales, je cite, les finances ou le pillage à l'intérieur, la guerre ou le pillage à l'extérieur, enfin les travaux publics. Le climat, les conditions géographiques et plus particulièrement les vastes espaces désertiques qui du Sahara à travers l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Mongolie s'étendent jusqu'au plus haut plateau d'Asie faisaient de l'irrigation artificielle par canaux et par distribution d'eau la base de l'agriculture orientale. En Égypte et en Inde, comme en Mésopotamie et en Perse, etc., les inondations servent à fertiliser le sol. On profite du haut niveau des eaux pour remplir les canaux d'irrigation. En Occident, dans les Flandres et en Italie, par exemple, cette nécessité primordiale d'utiliser l'eau en commun et avec économie conduisit l'entreprise rivée à l'association volontaire. En Orient, où le territoire était trop vaste et la civilisation trop peu évoluée pour permettre une association volontaire d'intérêt vital, cette nécessité provoqua l'intervention de la puissance centralisatrice du gouvernement. C'est dans cette mesure qu'une fonction économique a combat à tous les gouvernements asiatiques, pourvoir aux travaux publics. Autrement dit, dans ce court texte, Marx définit qu'en Orient, la propriété privée n'existe pas. Et que donc, elle a été toujours suppléée par l'État. Et à partir de ça, des générations et des générations de savants marxistes vont essayer de raffiner sur un mode de développement asiatique dont le premier problème, à cause de Karl Marx, c'est qu'il n'est pas dans le circuit. Puisque dans le circuit, c'est le mode de production servile de l'Antiquité, le mode de production féodale, le mode de production bourgeois et la révolution mondiale, la prolétariat. Le mode de production asiatique se trouve à l'extérieur du circuit des modes de production qui ont fait l'Europe conquérante. Alors, ça aura évidemment beaucoup de conséquences. On s'est encore tapé il y a quelques années des thèses d'anciennes personnes formées dans les pays de l'Est qui essayaient de trouver du mode de production asiatique dans l'Empire ottoman. C'était assez pénible. Et puis, d'autre part, les Américains ont pigé le coup dans la guerre froide, mais ils ont dit que l'Union soviétique, c'est une propriété du détail et pas des individus, donc c'est du mode de production asiatique. Et ils ont donc développé des recherches sur le mode de production asiatique pour démontrer que c'était tout, sauf du prolétariat, ce que l'Union soviétique ou la Chine communiste n'était que la reproduction que ce Marx avait appelé le mode de production asiatique. Bon, tout ça, pour les moins de 30 ans ou 35 ans ici, ça ne veut rien dire, mais ça a encore concerné ma jeunesse où cette littérature, des deux côtés, faisait rage autour du mode de production asiatique. Alors, à juste titre, Marx explique comment les Anglais ont détruit l'artisanat en Inde en imposant leurs produits manufacturés. Là, il a totalement raison. Et de fait, l'Orient n'est plus réduit qu'un conglomérat de communautés villageoises et familiales qui l'on conjugue dans une logique d'autosuffisance, de travail agricole et de travail artisanal. L'intervention anglaise en Inde a dissous ces petites communautés mi-barbares, mi-civilisées en sapant leur fondement économique, accomplissant ainsi l'unique révolution sociale que l'Asie n'ait jamais connue. Et Marx n'a aucune sympathie pour ces vieux modes de production asiatiques. Nous ne devons pas oublier, je cite, que cette vie indigne, stagnante et végétative, cette forme d'existence passive suscitée de l'autre côté par contre-coup des forces destructrices, désordonnées, effrénées et sauvages. Le corollaire, c'est le système des castes, l'esclavage et un culte bestial de la nature. Ça, c'est l'hindouisme, le culte bestial de la nature, selon Marx. Et en conclusion de l'article de 1853, certes, l'Angleterre, en suscitant une révolution sociale en Hindoustan, est émue uniquement par les plus sordides intérêts et sa manière de les imposer était stupide. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si l'humanité peut accomplir sa destinée sans une révolution sociale de l'Asie. Sinon, quels qu'aient été ses crimes, l'Angleterre a été l'instrument inconscient de l'histoire amenant à bien cette révolution. Et on voit que le colonialisme de la bourgeoisie conquérante qui établit le marché mondial, en quelque sorte, et Marx le dit, et Engels le dit dans d'autres textes, tout simplement réintroduisent de l'histoire dans des sociétés qui sont sans histoire. Et ils annoncent, ils sont porteurs de la civilisation que ensuite le prolétariat reprendra quand il aura fait la révolution. En effet, Marx retrouve l'idée, entre autres présente chez Guizot, j'en ai parlé je crois la dernière fois. Marx est un grand lecteur de Guizot. Hein. Au passage, je le signale, c'est à Guizot qu'il a appris l'idée de lutte des classes, qui se trouve dans les textes de Guizot. Que l'Asie est endormie dans l'histoire, contrairement à une Europe poussée constamment en avant par ses contradictions sociales, et c'est l'absence de propriété privée en Asie qui explique que l'Asie n'a pas d'histoire. Ou plus exactement, là c'est très perfide, l'histoire de l'Asie n'est qu'une histoire des religions, dit Marx. Donc l'Europe bourgeoise est à la tête du mouvement de la civilisation et elle entraîne les autres mondes dans ce processus grâce à la mondialisation du commerce et du marché. Il est évident que Marx et Engels sont des partisans de la mondialisation. Ce qui n'est pas occidental n'a pas été jusque-là dans l'histoire, ou était plutôt, pour employer une expression bien postérieure mais utilisée dans cette enceinte, une histoire immobile. L'histoire du monde non occidental est une histoire immobile avant la colonisation. Le manifeste a beau affirmer la caducité du fait national, du fait même de la progression du marché mondial qui uniformise la production industrielle et les conditions qui y correspondent, puis ensuite par la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme qui ablotira l'exploitation d'une nation par une autre nation. Néanmoins, ça c'est la théorie, en pratique, Marx et Engels ont tendance à hiérarchiser les peuples et les nations en fonction dans le rôle de la civilisation bourgeoise du monde, puis dans le mouvement révolutionnaire. Car en fait, nous allons le voir, Marx et Engels reprennent les idées d'Hegel, mais en substituant le facteur révolutionnaire à celui de l'esprit chez Hegel. Alors, on voit ça dans un texte de février 1849, qui est un texte d'une extraordinaire violence de Engels contre le mouvement spanslaviste soutenu par un adversaire, donc un ami de Marx, Bakounine. Et on n'a jamais vu une telle apologie du colonialisme occidental que dans ce texte qui commence par la façon suivante. Et Bakounine reprochera-t-il aux Américains une guerre de conquête qui porte sans doute un rude coup à sa théorie sur la justice et l'humanitarisme, mais qui fut néanmoins menée dans le seul et unique intérêt de la civilisation? Ou bien faut-il déplorer que la splendide Californie soit arrachée aux fainéants mexicains qui ne savaient qu'en faire? Les Américains, au moins eux, vont fonder de grandes cités, créer des communications avec de la navigation à vapeur, établir une voie ferrée de New York à San Francisco, ouvrir en fait pour la première fois l'océan Pacifique à la civilisation et donner pour la troisième fois dans l'histoire du commerce mondial une nouvelle direction. L'indépendance de quelques Californiens et Texans espagnols peut en souffrir, la justice et ça et là d'autres principes moraux peuvent être violés, mais qu'est-ce en regard de pareils faits historiques de portée mondiale? On n'a jamais vu une telle apologie de la violence coloniale et industrielle de l'Occident. En fait, cette apologie des Yankees sert à préparer la condamnation des Slaves. Il vise d'abord les Slaves de la monarchie autrichienne, qui dépendent historiquement, littérairement, politiquement, commercialement et industriellement des Allemands et des Magyars, et qui risque de servir d'instrument à la politique russe. La condamnation est accablante. Les Slaves sont assimilés au peuple asiatique qui ne sont pas entrés dans l'histoire. Je cite, Nous avons montré comment ces minuscules nations, depuis des siècles à la remorque de l'histoire contre leur propre volonté, sont nécessairement contre-révolutionnaires, et comment leur position dans la révolution de 1848 fut réellement contre-révolutionnaire. Fin de citation. À l'exception des Polonais, qui, pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont catholiques, ne sont pas panslavistes, les Slaves appartiennent tous à des peuplades qui, ou bien sont forcément contre-révolutionnaires en raison de leur position historique, tels les Slaves du Sud, les Yougoslaves, comme on dira plus tard, ou bien sont encore bien loin d'une révolution et donc tout au moins pour le moment encore contre-révolutionnaires, comme les Russes. Le constat est accablant. Redisons-le, je cite, « En dehors des Polonais, des Russes et tout au plus des Slaves de Turquie, aucun peuple slave n'a d'avenir pour la simple raison que tous les autres Slaves sont privés des conditions élémentaires, historiques, géographiques, politiques et industrielles pour être indépendants et survivre. Des peuples qui n'ont jamais eu leur propre histoire, qui, aussitôt qu'ils accèdent au stade premier le plus primitif de la civilisation, passent sous domination étrangère, ou qui n'atteignent ce stade que sous la contrainte d'un joug étranger, ne sont pas viables et ne parviendront jamais à quelque indépendance que ce soit. » Alors, on a considéré à juste titre que cette notion de peuple sans histoire vient de Hegel dans La raison dans l'histoire de Hegel, je cite, Hegel cette fois-ci, « D'une façon générale, un peuple ne participe à l'histoire que dans la mesure où il a identifié sa nature fondamentale, sa fin fondamentale avec un principe universel, et c'est dans cette mesure seulement que l'œuvre qu'il produit constitue un organisme éthique politique. » Si c'est seulement le désir qui pousse les peuples à l'action, leur agitation passe sans laisser des traces. Le fanatisme, par exemple, n'est pas une œuvre et ses traces ne sont que ruines et destructions. C'est Zeus, le dieu politique, qui par la tête engendra Minerve et au cycle duquel appartiennent Apollon et les Muses, qui les premiers a dompté en produisant une œuvre éthique consciente, en créant l'État. Donc chez Hegel, les peuples slaves sont incapables de créer l'État, donc ils ne méritent pas la catégorie de peuple. Chez Marx et Engels, les Slaves sont contre la révolution et donc ne sont pas dignes d'entrer dans l'histoire. Alors, au passage, Marx et Engels, et ajoutent quand même dans les peuples sans histoire, pour nous faire plaisir à nous, les Bretons en France, les Celtes en Écosse et les Basques en Espagne, qui reçoivent aussi le label de contre-révolutionnaires. Au passage, dans d'autres textes, Engels tape aussi sur les Danois, en particulier à cause de l'affaire des Schleswig-Holstein entre le Danemark et l'Allemagne. Et évidemment, Marx et Engels sont d'une germanophilie absolue dans l'affaire des Schleswig-Holstein. Et puis, il tape sur les Scandinaves, qui ont tort de s'opposer aux intérêts nationaux allemands, alors qu'il s'agit du combat de la civilisation contre la barbarie. Donc, c'est l'Allemagne qui est l'expression de la civilisation. Et on est toujours très inquiet sur les textes, mais la conclusion du texte de Engels de février 1849 est particulièrement inquiétante. Je cite, « Si le panslavisme révolutionnaire prend ses propos au sérieux et s'agissant de l'imaginaire nationalité slave ne tient nul compte que de la révolution, alors nous savons nous aussi ce qu'il nous reste à faire. Alors ce sera le combat, un inexorable combat à mort avec les Slaves traîtres à la révolution, lutte exterminatrice et impitoyable terreur, non pas dans l'intérêt de l'Allemagne, mais dans l'intérêt de la révolution. » Alors pour ceux qui se sont toujours interrogés pour savoir s'il y avait un ADN Engels-Marx dans le système soviétique, il y a certains textes qui font quand même assez peur, celui-là. Alors, donc, pour bien comprendre la position de Marx et d'Engels, la révolution et la civilisation sont les fins fondamentales qui justifie l'accès à l'histoire. Et leur germanité, dans la ligne de l'héritage de Hegel, introduit une forte slavophobie qui vise en tout premier lieu la Russie réactionnaire du tsar Nicolas Ier. Alors là, c'est Engels. beau gosse, lui. Je me rappelle que Engels avait une double vie. Il était le théoricien du socialisme et il était industriel textile à Manchester, où il pratiquait, entre autres, la chasse au renard, le fonctionnement des meilleurs clubs aristocratiques de Manchester. Et il passait son temps à financer la famille de Marx pour que Marx maintienne son train de vie de bourgeois. Mais en même temps, il était chef d'entreprise et capitaliste, hein, Engels. Et d'ailleurs, à sa mort, il léguera toute sa fortune personnelle à la famille de Karl Marx, ou en tout cas une plus grande partie. Donc en 1851, Marx s'est réfugié à Londres, Engels étant déjà à Manchester. L'exilé donc, et sa famille vivent très largement des subsides d'Engels, et surtout pour des raisons alimentaires, Marx devient le correspondant européen du New York Daily Tribune, qui est le plus important journal américain de l'époque, tirant à plus de 200 000 exemplaires. Ce journal, dans la politique américaine, est positionné à proximité du Parti républicain, qui est créé en 1854. Bon, évidemment, c'est les républicains d'Abraham Lincoln, hein, pas ceux de George Bush. Mais c'est une espèce d'ironie de l'histoire de penser que Marx a écrit dans le principal organe du Parti républicain naissant. Même si les républicains étaient considérés très à gauche dans cette période de leur histoire. Bien des articles signés Marx sont en fait rédigés par Engels, qui trouve là encore le moyen d'aider son ami. De plus, Engels se pique de connaissances d'art de la guerre, au point que ses amis et Marx le premier l'avaient surnommé le général. Donc on est à peu près sûr que toutes les dépêches concernant les opérations militaires de la guerre de Crimée, même si elles sont signées par Marx, sont de la plume de Engels. Néanmoins, les exégèses considèrent que la moitié des 500 articles publiés par Marx sont de la plume de Engels, donc l'autre moitié, eh bien, de Marx lui-même. Alors, au début, évidemment, les articles dans le New York Daily Tribune concerne la situation en Europe, la révolution, la contre-révolution, et sert d'éléments d'accompagnement ou de préparation à des livres célèbres comme « La lutte des classes en France »,« Le 18 brumaire » de Louis-Napoléon Bonaparte, etc. La nécessité pour Marx de couvrir l'actualité l'a amené à lire les œuvres d'un des plus grands excentriques et aventuriers britanniques de l'Angleterre victorienne, les victoriens produisant un grand nombre d'excentriques, à condition, si possible, qu'ils soient d'origine aristocratique. C'est le cas de David Urquhart, j'arrive pas à le prononcer, c'est un Écossais, né en 1805 et éduqué en Europe continentale. Cet aristocrate est d'abord parti en Grèce en 1827, comme militant de la cause philhellène, ce qui lui a valu d'être nommé à l'ambassade britannique à Constantinople. Mais là, il bascule dans l'autre camp et devient un défenseur acharné de la cause ottomane et multiplie les publications dans ce sens. Il se lance en particulier dans une entreprise de soulèvement des Tcherkesses, du Caucase contre l'autorité russe, qui provoque un scandale international quand le navire qu'il avait affrété chargé d'armes est intercepté par la flotte russe, ce qui l'amène évidemment d'être désavoué par son gouvernement, par Lord Palmerston, qui est à l'époque secrétaire au Foreign Office, ministre des Affaires étrangères. Donc il est rappelé en 1837, et à partir de cette date, il marie sa russophobie à une hostilité ouverte contre Palmerston, développant une théorie conspirationniste que Palmerston serait en fait un agent russe déguisé. Ocoart est député aux communes de 1847 à 1852 et son rémantisme réactionnaire et anti-gouvernemental le conduit à être un proche des radicaux anglais, comme peut arriver dans ce genre de situation. Il devient temporairement un homme célèbre sur la scène politique, menant des meetings et des manifestations, même si l'histoire retiendra surtout de lui qu'il a été l'introducteur des bains turcs en Grande-Bretagne. Au début, Marx a été plutôt sceptique sur la thèse faisant de Palmerston un agent russe, mais il se laisse progressivement convaincre par les idées de Coart, ce qui le conduit à publier une série d'articles réunis ensuite en pamphlet sous le titre « Lord Palmerston », seul grand succès d'édition de Marx de son vivant, mais qui ne lui rapportera rien puisque c'est pour la cause révolutionnaire, donc on ne lui paye pas de droit d'auteur. Il peut ainsi annoncer en 1853 que la carrière de Palmerston est finie, qu'on ne le reverra jamais au pouvoir. En fait, Palmerston reviendra premier ministre de 1855 à 1858 et de 1859 à sa mort en 1865. C'est tout à fait rassurant pour les successeurs de Marx comme moi qui font de l'histoire immédiate et des prédictions de voir que les plus grands se sont plantés. Donc nous pouvons invoquer des précédents. Nous allons faire la pause et nous reprenons dans 5 minutes.